Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDOA. Alors on est content de vous retrouver ce dimanche matin pour discuter astronomie avec nous. C'est le 88e épisode de l'émission. Et on est trois dans le studio, Axel, Pierrick et Fred.
Bonjour à tous.
Bonjour Fred et Pierrick.
Bonjour Axel.
Alors on vous rappelle comme d'habitude le podcast de l'émission sur le site de RDOA, rdwa.fr. Vous allez dans les émissions thématiques, là vous trouvez l'Étoile Polaire avec toutes les émissions depuis le début. Et puis les photos hein, du ciel avec principalement Axel et Rémi qui en ce moment
un
peu moins présent.
Un peu moins occupé par la photo que par autre chose.
C'est ça. On vous rappelle aussi les événements qu'on organise là à venir pour cet été. Donc il y aura tout d'abord On the Moon Again, cet événement international où en fait on invite en fait tous les gens qui ont un télescope à le sortir pour faire observer la Lune au public. Donc nous on sera là sur la place de la cathédrale à 10 à partir de la fin d'après-midi, parce qu'on peut observer la Lune même sur un ciel bleu, même en fin de journée. Voilà, pour vous faire découvrir la Lune et également le Soleil cette année, avec un petit télescope spécialement équipé pour ça. Donc ça, ce sera du 6 au 8 juin. En tout cas, 6 et 7, on y sera, c'est sûr, le vendredi, samedi. Ouais. Évidemment, tout ça dépend du temps, mais on espère qu'il sera favorable. Et puis, on a aussi donc le festival de Marignac Fête les Étoiles qu'on organise cet été. Cette année, ce sera le 19 juillet. Donc à la base de loisirs de Marignac. Alors on a aussi décidé cette année d'organiser une soirée supplémentaire la veille, donc le vendredi 18 juin, pour en fait vous proposer d'apprendre à utiliser un télescope. Donc là par contre, si ça vous intéresse, il faut nous contacter. Ce sera sur inscription avec un nombre de participants limité. Et là vous nous envoyez un mail donc à notre adresse astro-rdwa@protonmail.com si vous souhaitez participer à cette soirée. Voilà pour ce petit préambule. Je vais vous présenter le sommaire de l'émission. Alors, on va commencer comme d'habitude avec le ciel ce soir, un peu les constellations qui sont observables la nuit. Ensuite, on aura des actualités du monde de l'astronomie. Là, Pierrick, tu nous as concocté tout un petit florilège de choses.
C'est mon petit JT personnel. Ouais.
Voilà. Ensuite, ce sera la chronique astrale. Et cette semaine, je vous parlerai d'un physicien indien qui s'appelle Satyendranath Bose. Enfin, qui s'appelait, puisqu'il est mort. Et puis après la pause musicale, ce sera la rubrique qui tombe à pic. Axel, tu nous reparleras des météorites, la deuxième partie de cette chronique.
Tout à fait. Le physicien dont tu vas parler, c'est celui qui étudie les trous noirs ?
Non.
Ah non, ça c'est Chandrasekhar.
Chandrasekhar.
Ah oui, pardon.
Ouais, il n'y a pas énormément de physiciens indiens.
Eh oui, c'est ça.
Mais voilà, c'est un autre.
J'avais une chance sur deux.
Alors c'est parti, on va démarrer avec le ciel ce soir. Qu'est-ce qu'on peut observer, Axel, quand le soleil se couche ?
Le ciel du moment que j'ai pu observer, pas vous, si j'ai bien compris.
Pas trop. Non.
Moi, j'avoue, pas
toi,
des masses.
Sous les nuages, Pierrick, toi, dans la pollution lumineuse de la cité.
D'une grande ville. Ouais. Et puis les autres fois, il y a quand même pas mal de nuages ces derniers jours. Donc,
voilà. Et moi, j'ai eu la chance d'aller à l'observatoire Cosmodrome dans les Baronnies pour deux nuits, notamment pour faire des travaux sur le local, mais évidemment, une fois la nuit tombée, on a profité quand même un peu du ciel. Enfin, j'ai essayer de profiter puisque je voulais faire des photos et de l'astrophoto. La première nuit, il y avait beaucoup trop de vent, ça faisait bouger l'instrument. Et la deuxième nuit, le ciel était beau à l'œil nu, mais en fait chargé d'humidité, ce qui était révélé par le télescope et par les photos, que vous ne verrez pas. Donc, en tout cas pas cette fois, le podcast ne sera pas illustré par les galaxies des antennes que j'ai essayé de faire et qui sont dans cette constellation qui est plein sud en ce moment. Si vous avez un ciel dégagé au sud, il y a un peu rien là sur l'horizon sud, sauf 4 étoiles. J'en parlais déjà la dernière fois, mais j'aime bien cette petite constellation. Et je vous parle du Corbeau, qui est en dessous de la Vierge. Un peu, on peut imaginer un triangle entre le Lion, la Vierge, et la pointe basse, c'est le Corbeau. Voilà, où il y a ces galaxies. que j'aurais plaisir à,
c'est bas, non,
à réessayer de vous à photographier. C'est oui, c'est assez bas, ouais. Je pense que de 10 mèmes, on la voit pas.
Ah ouais.
On entend un peu sur les hauteurs, au rempart, ou là, peut-être. Ouais. Ouais, c'est assez bas, le corbeau. Mais bon, par contre, on a bien au-dessus le lion, qui est dans sa belle position allongée, caractéristique, on va dire, position de base du lion, qui lui a donné son nom. Et à gauche, vers l'est, la Vierge, avec son étoile bien brillante aussi, l'épi. C'est un peu les étoiles brillantes du moment, hein, au sud. L'épi à gauche, Régulus à droite.
Avec Arcturus au-dessus de l'épi aussi.
Et Arcturus
qui se lève en début de nuit.
Oui, Arcturus qui est bien présente. Quand on prolonge la queue, le manche de la casserole de la Grande Ourse, on tombe sur Arcturus et sa constellation du Bouvier. Avec toujours, juste au-dessus, parce que finalement ça ne bouge pas tant que ça, la couronne boréale et Hercule, encore un peu plus à l'est et un peu plus au-dessus. Hercule qui contient un des très rares objets devinables,
discernable
à l'œil nu. En tout cas, le seul amas d'étoiles, l'amas globulaire visible à l'œil nu, parce qu'on peut voir quelques amas ouverts.
Amas ouverts, ouais.
Comme on parlait récemment de la crèche, ou des Pléiades, bien sûr. Mais en amas globulaire, je crois que c'est le seul qu'on peut deviner à l'œil nu. Bien sûr, il faut un ciel bien sombre et des yeux en bon état.
Bien affûté.
Ouais. Voilà, et puis le triangle d'été qu'on voit bien aussi, à partir de minuit, en continuant cet axe. Si on part du Bouvier, d'Arcturus, la couronne, Hercule, et derrière, on arrive assez vite à Vega, l'étoile la plus brillante de l'été. Oui, parce qu'on n'a plus Sirius. Est-ce qu'on a encore Sirius? Non, elle est couchée très tôt. Ouais. On a Capella dans la même zone, au couchant.
Le cocher, pardon, ouais, est très, très présent. Quoi.
C'est ça. Au couchant, on a le cocher,
oui,
avec Capella. Et puis avec Castor et Pollux aussi, deux étoiles côte à côte. Dans le secteur aussi, on trouve Mars en ce moment. C'est ça, oui.
Oui, près de Castor et Pollux. Ouais. S'éloigne un petit peu là, mais elle est là.
Voilà, que dire de plus? J'étais content de voir le scorpion aussi, qui est là de plus en plus tôt. Ça devait être 2h du matin, je voyais déjà bien le scorpion se lever au sud, sud-est. Et voilà, le scorpion, qui dit scorpion dit voie lactée.
Ouais, c'est vrai.
Et qui dit voie lactée dit l'été arrive.
Oui. On a aussi Jupiter
en début de nuit
qui se couche, voilà, donc qui est en train de disparaître. Hein. Ouais. Donc si vous mentionnez ça, Jupiter, si vous avez observé, en fait, elle a fait un mouvement rétrograde. C'est-à-dire que normalement, les planètes se promènent donc le long des constellations du zodiaque en se déplaçant vers l'est. Mais il arrive en fait assez régulièrement, que ce soit pour Mars, pour Jupiter, enfin bon, certaines les planètes qui ont un mouvement apparent rétrograde en fait et qui partent au contraire vers l'ouest avant de redémarrer vers l'est. Donc là, Jupiter vient de finir son mouvement rétrograde
dans le Taureau.
Et donc là, elle s'est immobilisée. Donc c'était hier en réalité, au moment où l'émission est diffusée. Et là, elle va s'immobiliser donc dans le Taureau, pile dans l'amas des Hyades en fait.
Okay.
Donc vraiment tout à côté d'Aldébaran.
Et petit à petit repartir vers l'est, elle atteindra les Gémeaux. On a révisé tout à l'heure, mais on a oublié au mois d'octobre, je crois.
Oui, plusieurs mois.
Donc quelques temps. Au mois de juin, tu disais pas, non, je sais plus.
Ah, au mois de juin, elle arrive
Les Gémeaux, mais elle va y rester longtemps.
Elle y reste un an.
Parce qu'elle a le temps de le traverser. Bon, Jupiter, elle se déplace pas très vite sur le fond du ciel, moins vite que Mars. Et elle va entamer encore un mouvement rétrograde cet hiver.
Ouais,
donc en fait, elle va stagner. Elle va être dans les Gémeaux pendant quasiment un an.
Ouais.
Elle bouge, hein, c'est juste notre mouvement, notre perception fait qu'elle stagne, mais en vrai, elle avance comme les autres, elle tourne autour du Soleil.
Oui, ah, elle continue sa rotation toujours à la même vitesse autour du Soleil.
C'est 11 ans, je crois, elle met à faire le tour du Soleil.
Ouais.
Quelque chose comme ça, ouais. 12 ans, je crois que c'est ça.
Et sinon, l'autre soir, je regardais. Donc, si vous regardez en fait le lion et vous partez un petit peu vers l'est, il y a la chevelure de Bérénice.
Tout à fait.
Et en fait, j'avais l'impression de voir une sorte de nébulosité.
Oui.
Mais donc, j'ai pris mes jumelles et en fait, il n'y en a pas. C'est vraiment des étoiles, quoi.
Ah oui.
Il n'y a pas de gaz, en fait.
Mais tu fais bien de mentionner cette constellation, puisqu'elle contient un amas de galaxies qui n'est pas visible à l'œil nu, mais avec un instrument, on peut les voir. Et en photo, et c'est ce que j'ai fait il y a 2 semaines. Et donc ce sera l'image qui illustrera le podcast de cette 88e émission, L'amas de galaxies de la chevelure de Pérénice.
Super.
Trop bien.
C'est Claffy.
Il y a beaucoup, beaucoup de galaxies dans cette zone-là.
Ouais. Combien il y en a, je ne sais pas. Je vous laisserai compter.
Ah ouais, ah, c'est vraiment...
Sur le site.
Ah ouais.
On voit 3-4 étoiles sur l'image et tout le reste, c'est des galaxies, des points partout, plus ou moins gros, plus ou moins avec une forme plus ou moins caractéristique de galaxie. Mmh. Mais en tout cas, il y a quasiment que ça sur ces images qui, avec mon instrument qui représente à peu près 2 pleines lunes dans le ciel. Donc à peu près 3 doigts, un carré de 3 doigts à bras tendu dans le ciel. Et dans cette petite zone, c'est des dizaines et des dizaines de galaxies.
Quand on regarde par là, en ce moment, on regarde en dehors de la Voie lactée. Hein, de toute façon, là, tout ce qu'on observe s'éloigne du centre galactique.
Ouais, hein. Ouais. C'est pas l'opposé, mais c'est la perpendiculaire de la galaxie, du plan galactique. Ouais.
Ok.
Tout à fait.
Donc, cette zone est très dense, de toute façon. Ouais, ouais. C'est une petite zone à chevelure de Bérénice, mais il y a beaucoup de choses dedans.
Oui, puis la Vierge, pas loin, où il y a aussi tout un amas de galaxies.
Ouais. Ouais. Eh bien super, merci, on va continuer. Donc Pierrick, là tu vas nous parler de quelques actualités.
Ouais, il y a des choses qui ont retenu mon attention ces derniers temps. J'avais envie de vous parler de Tara. Tara, alors on sort un peu de l'astro, mais quand même on n'en est pas loin. Tara, c'est un bateau qui va faire une expédition dans le pôle Nord. C'est un bateau assez particulier. C'est une espèce de grosse bouée qui va se faire emprisonner dans les glaces du pôle Nord. Pendant plus d'un an, pendant plusieurs années. Hein. Elle a été inaugurée le 24 avril et elle va passer donc un an bloquée dans les glaces avec un équipage en hivernage qui va rester 8 mois en autarcie pour 12 personnes. Donc on sort de l'astro, mais en tout cas c'est quand même... c'est toujours des bonnes avancées pour aussi partir dans l'espace longtemps. Dans la même optique d'être en autarcie, c'est encore plus compliqué dans l'espace.
Isolé, coupé du monde.
Ouais, voilà.
Avec toujours les mêmes gens.
Toujours les mêmes, sans possibilité de ravitaillement ou très très compliqué.
Ouais.
Donc voilà. Donc c'est une forme, c'est une espèce de bouée ovoïde là, une espèce de cercle oblong là, qui fait 26 mètres de long et 11 mètres de haut. Elle avait construit en centre une espèce de piscine là, d'observatoire du fond sous-marin. Donc ça va être, elle va être complètement bloquée dans les glaces et ils pourront observer le fond sous-marin à partir de cette espèce de piscine à l'intérieur. Et donc l'équipage est composé comme dans un vaisseau spatial, d'un capitaine, un second, un mécano, un cuistot, un médecin, un correspondant de bord et 6 scientifiques. Voilà, chacun aura sa chambre. Et voilà, donc il pose toutes ces questions de promiscuité, de rythme aussi circadien, de rythme de sommeil, parce que en hiver,
oui,
au pôle Nord, il
n'y
a pas de lumière.
Ouais, c'est ça.
Enfin, il met du temps à revenir, donc les nuits sont très longues, donc il faut quand même rythmer les journées pour avoir un semblant de rythme, faire du sport aussi. Je crois qu'ils vont aller pelleter la glace autour pour ne pas se faire submerger. Voilà, il y a tout plein de choses à... Le matos aussi, il faut que, par exemple, pour avoir de l'eau potable, il faut que l'osmoseur y marche, faut que le matos soit hyper fiable, en fait, pour que ça puisse tenir 8 mois sans que personne vienne les aider. Alors, par exemple, ils embarquent 10 tonnes de nourriture. Voilà. Et ils vont étudier les micro-organismes du type algues dans les conditions extrêmes... du pôle Nord où il n'y a pas de soleil, où il fait entre moins 50 et moins 20. Et tout ça, c'est aussi des micro-organismes qui vivent dans des conditions extrêmes et possiblement qui vivent dans des espèces de mondes océans, mondes glacés, type planète de Jupiter, planète de Saturne.
Satellite.
Ouais. Satellite, pardon. Ouais. Satellite de Jupiter.
Type Titan aussi. Oui, aussi. Titan autour de Saturne et puis... C'est quoi, c'est
Europe,
Ganymède.
Ouais. Ganymède, ouais. Et Encelade. Io, non. Io, c'est,
non,
c'est l'enfer, c'est le Mordor.
Ouais.
Donc voilà, ils vont étudier ces espèces d'organismes qui résistent à des conditions extrêmes et qui peut-être se développent sur d'autres mondes, soit dans le système solaire, soit ailleurs. Voilà.
Très bien.
Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'a priori, tous les résultats seront en open source. Et il y a quand même 12 pays impliqués dans ce truc. Donc je trouvais ça chouette. Et je crois que c'était parrainé par le... Par, alors, celui qui a fait plein d'expéditions au pôle Nord et tout, là, le médecin. Bon, ça me reviendra peut-être plus tard. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de l'ILRS, l'International Lunar Research Station. Vous la connaissez, celle-là ?
Non.
Ça, c'est la Chine et la Russie qui se sont associés il y a un petit moment pour créer leur propre base lunaire. Oui, aussi, hein, ils veulent faire la même chose. Et,
une base au sol.
Une base au sol, ouais. Une base au sol pérenne pour qu'il y ait du monde à long terme.
Okay.
Et pour la construire, ils réfléchissent à quelle énergie ils veulent choisir pour que ça fonctionne. Et eux, ils sont en train de monter un réacteur nucléaire sur la Lune. Alors, ça m'a fait triper quand même d'avoir d'oser penser à ça. Il faut dire que la Chine, ils sont un peu leaders en ce moment dans le nucléaire.
Ouais.
Ils ont construit plein pour eux, dans leur pays.
Ils n'ont pas intérêt à foirer le lancement.
Ouais,
c'est ça.
C'est...
Ouais.
Là... Et ils ont construit un EPR aussi. On leur a livré un EPR français qu'ils ont monté et qui marche, bien avant le nôtre. Aussi, quand même. Voilà, je me demandais quelle est la différence. Enfin, quelle est la différence si on choisit des panneaux solaires, est-ce que par exemple c'est compliqué parce qu'il en faut énormément ? Est-ce que si on monte un réacteur nucléaire, peut-être qu'un petit réacteur suffit et que c'est moins compliqué ? Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas je pense que c'est leur réflexion.
Il y a une date de prévu pour démarrer la construction de ça ? Ou c'est un projet pour...
Ça commencerait en 2030, voire 2035.
Oui.
Les premiers Chinois ou Russes sur la Lune, ce serait 2030. Et la station 2035.
J'imagine que ce serait du côté du pôle sud lunaire, non ?
Ou ça, pas j'ai pas vu ça. J'ai pas cherché. Je me suis dit que j'irais creuser un peu sur ce qu'ils font parce qu'on n'entend pas trop parler, mais.
Non.
Mais ils avancent.
Ok.
Ils avancent.
Ouais.
En tout cas, les Chinois, ils sont entre les Chang'e sur la Lune, le débarquement sur Mars aussi qu'ils ont fait. Enfin voilà, quand même, ils dépotent, ils avancent. Et j'ai pas regardé, mais il y avait Vega C qui devait décoller aujourd'hui. Je vais pas regarder.
Non plus.
Comme elle a eu deux échecs, je me suis dit, tiens, peut-être que. Bon, on verra. Ok, je voulais parler du retour sur l'ISS. Il y a eu un retour sur un Soyouz de Don Petit. Don Petit, c'est un astronaute américain. Et il a 70 ans.
Ah oui.
La dernière fois, on parlait de ceux qui étaient coincés, qui avaient la soixantaine.
Ouais.
Bah en fait, lui, c'est plus vieux, il a 70.
Est-ce que c'est le record ?
Je crois, ouais. Ouais. Je trouve ça beau quand même, 70 ans de sortir de l'ISS. Il cumule quand même 590 jours, pas d'un coup, mais cumulé. Là, il revient d'une session de 200 et quelques jours. Et il est rentré sur un Soyouz avec deux cosmonautes russes, qui s'appellent Alexei Ovtchinin et Ivan Wagner. Ils sont rentrés sur un Soyouz. Et il a fêté ses 70 ans à l'atterrissage, Don Petit. Je trouvais ça chouette. Et du coup, ça m'a fait penser qu'il y a toujours cette collaboration russo-américaine qui a été validée encore jusqu'en 2027. Ouais.
Ah oui.
Donc je trouve ça cool. Et l'idée, en fait, c'est qu'il y ait toujours un Russe à bord d'un Crew Dragon de SpaceX, donc des Américains, et toujours un Américain à bord d'un Soyouz. C'est un peu le deal qu'ils ont passé. Et Don Petit, il fait beaucoup de photos. Et il fait des super photos. Il fait des photos avec des traînées lumineuses. Avec le.
Ah oui. Ouais, des poses longues.
Des poses longues où il y a la Terre, la lumière de la Terre en traînée, plus un. Comment ça s'appelle ça, Axel ?
Une circumpolaire.
En même temps, je trouve ça très beau, très esthétique. Il y a d'autres photos où on voit, par exemple, la station spatiale, et avec dessous les traînées lumineuses courbées de la Terre. Voilà, il fait des choses sympas. Ça vous dit d'aller voir, c'est quand même chouette. J'ai bien aimé toutes ces belles photos qu'il fait.
Cool.
Voilà, ça donne petite. Après, j'avais envie de parler du James Webb Space Telescope.
Donc, qu'est-ce qu'il a fait ?
James Webb, il...
Il a découvert la vie.
Mais oui.
C'était les gros titres. Ouais, un copain qui m'a envoyé ça, j'ai dit, non, attends.
Alors, voilà.
C'est vraiment fatigant. Parce
ouais,
que
ouais,
ça n'arrête jamais.
Mais oui.
Non, mais quand même...
n'importe quoi.
Non, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même des signes de bio. C'est... Et c'est la deuxième fois qu'il détecte du sulfure de diméthyle dans la même planète.
Oui. Évidemment, chose qui sur Terre n'est produit que par le vivant.
Que par du plancton. Ouais. Hein.
Mais
que sur un monde océan.
Mais qui, dans l'espace, peut être produit par tout un tas de phénomènes.
C'est ça, c'est ce que disent les scientifiques. Ils disent, attendez, on a découvert ça.
Ça n'a aucun sens.
On a détecté ça, mais attendons d'en savoir plus. Quoi.
Exactement, ouais. c'est pas une preuve de vie, mais c'est quand même un... Voilà, c'est pas, ils n'en détectent pas tous les jours non plus de ça. Donc, sur un monde océan, a priori, avec du dioxyde de carbone et du méthane.
Et c'est où ?
Sur K2-18b à 120 années-lumière.
Mais c'est où ça ? Tu sais où ?
Non. 120 années-lumière, c'est pas trop loin ?
Pas trop, non.
en trottinette électrique, il faut combien de temps ?
Ça dépend de l'échelle à laquelle on se place. Quoi.
Non, mais c'est sûr que c'est pas. On sait pas ce que c'est, en fait. C'est pas la vie, forcément, mais c'est une bonne piste, en tout cas. Voilà, donc à confirmer, voilà, à voir encore. Et j'avais envie de parler de Lucie. Lucie, la petite sonde qui est partie il y a, je sais plus quand, il y a 5-6 ans, qui est une mission pour aller voir les Troyens de Jupiter. Les Troyens de Jupiter, c'est des astéroïdes qui orbitent en même temps sur la même orbite que Jupiter. Pas au même endroit, quoi, un peu à l'opposé. Et qui sont des espèces de fossiles de ce qu'était le système solaire au tout début de sa conception, quoi. Donc la petite sonde Lucie, elle va les voir, et en attendant de parcourir son chemin jusqu'au Troyen, elle a survolé un astéroïde qui s'appelle Donald Johnson. Ça, c'est un astéroïde de la ceinture principale. La ceinture principale, c'est des astéroïdes qui sont entre Mars et Jupiter, qui orbitent entre Mars et Jupiter. Et Donald Johnson, pour la petite histoire, c'est un des personnes qui a trouvé l'Australopithèque Lucie.
Ah oui, d'où le...
D'où le nom de la sonde Lucie, avec Yves Coppens à l'époque, en Éthiopie, en 1974. Ils l'ont aussi appelé Lucie parce que quand ils faisaient les recherches, ils écoutaient Lucy in the Sky des Beatles. Donc voilà, et il y a 2 ans, Lucie, elle a survolé aussi un astéroïde qui s'appelle Dikinesh, ce qui veut dire « Tu es merveilleux » en amharique, la langue d'Éthiopie. Le petit tour en Éthiopie de Lucie. Ouais. Voilà.
J'ai regardé le temps que tu trouves ta dernière info. Le K2-18 est un système qui est dans le Lion, sous le Lion, pas très loin du triplé du Lion, les trois galaxies.
Ok, merci Axel. Et pour finir, j'avais envie de parler du VLT. Donc le VLT, c'est le Very Large Telescope. C'est un énorme télescope de l'ESA qui est en Amérique du Sud, dans le désert d'Atacama, et qui a découvert une planète qui orbite à la perpendiculaire de 2 étoiles qui orbitent elles-mêmes ensemble. Donc c'est assez c'est rare, c'est voire jamais vu, je crois. Et donc cette planète 2M15B tourne autour de ce duo de 2 naines brunes. Et il y a même une troisième étoile qui orbite plus éloignée. Voilà, j'ai trouvé ça marrant de voir ça. Ça m'a fait penser, comme je regarde les Star Wars avec mes filles, et y a toujours ces images de coucher de soleil sur Tatooine où il y a 2 soleils.
Ouais.
Un jaune et un rouge d'ailleurs, je n'avais jamais fait le lien, mais... Peut-être que sur cette planète, on voit ça. Voilà.
Et merci Pierrick.
Yes, merci.
On va continuer donc avec la chronique astrale. Et donc cette semaine, je vais vous parler de ce physicien qui s'appelle Satyendranath Bose. Alors, lui, il est donc indien. Il est né et il est mort d'ailleurs à Calcutta. Il est né en 1894, il est mort en 1974. Vous allez voir. Lui, en fait, il est pas très connu en réalité, hein, son nom. Mais en fait, ses découvertes sont vraiment intéressantes. Et alors, je vais vous dérouler un petit peu sa vie et ce qu'il a fait. Alors bon, lui, il est né dans une famille, on va dire plutôt aisée, hein, de Calcutta. Son père travaillait comme une sorte d'ingénieur en fait pour les chemins de fer. Okay. Et puis, il a pu faire des études scientifiques. Et à partir de 1916, donc à 20 ans, il est devenu maître assistant au département de physique de l'université de Calcutta. Alors après, lui, il a bougé à Dhaka. Dhaka, si ma mémoire est bonne, c'est au Bangladesh. Ouais. Mais à l'époque, c'était encore l'Inde, puisqu'il n'y avait pas eu la partition.
Oui, c'était l'Empire anglais, ouais.
Les Indes.
Les Indes, ouais.
Et voilà, il a beaucoup travaillé, en fait, à Dhaka. Et en tout cas, entre 1916 et 1924, voilà, il est maître assistant. Et puis, en 1924, il va publier un article qui va, en fait... donc, il est jeune, hein, il a 30 ans, en fait. Il a 30 ans. Et il publie cet article qui va, en fait, complètement changer sa vie et qui va, en fait, lui donner sa renommée. Alors, je vais pas trop entrer dans les détails, mais lui, il travaille sur les statistiques quantiques, sur les photons. Où en fait, il étudie voilà un grand nombre de photons et voir un peu les différents états qui peuvent prendre. Mmh. Et ce que ça implique. Mmh. Et en fait, il arrive grâce à ses calculs à retrouver la fameuse formule de Planck qui donne le rayonnement du corps noir. Donc ça, c'est un classique de la physique en fait. Un corps noir, c'est un corps qui n'a un rayonnement purement thermique, enfin qui absorbe tout en fait, mais qui réémet un rayonnement thermique en fait, qui a une courbe très classique, enfin qui a une courbe en fait très reconnaissable quoi. Et c'est utilisé en physique pour calibrer tout un tas de choses, et aussi parce que l'univers au final a une sorte de rayonnement qui peut se rapprocher de celui d'un corps noir, etc. Bon, bref, c'est de la physique, je vais pas trop m'étendre là-dessus. En tout cas, ça prouvait que ça marchait ces histoires quoi, puisqu'il retrouvait une formule qui elle était validée par tout le monde. Et donc, il écrit cet article, il veut se faire publier, et en fait, il est rejeté. Les revues auxquelles il l'envoie n'acceptent pas l'article. Du coup, il se dit, je vais l'envoyer à Einstein. Donc, il décide d'envoyer cet article à Einstein, qui à l'époque est à Berlin, parce qu'on est avant la guerre, hein, il n'a pas encore émigré. Mmh. Hitler n'est pas encore au pouvoir. Par contre, Einstein est déjà une vedette, fait, hein, puisqu'on est en 1924. Donc, il a déjà les deux relativités, il a déjà l'effet photoélectrique. Enfin, c'est une méga star de la physique.
Top du top.
Et en fait, Einstein lit l'article et le trouve très intéressant. Et donc, le traduit lui-même. Et ensuite, il le traduit de l'anglais à l'allemand. Et il le fait publier dans une revue allemande.
Ah ouais.
Donc c'est quand même marrant. Hein, Donc je rappelle que Bose, à l'époque, il est même pas chercheur. Il est maître assistant en Inde.
Oui.
Mais Einstein, lui, il dit « Mais c'est super intéressant tes idées. Et moi, en fait, ce que tu racontes sur les photons, je vais l'appliquer à la matière et aux atomes.
Okay. »
Et donc, il prévoit l'existence d'un état très particulier de la matière que par la suite on a appelé un condensat de Bose-Einstein. Alors ça, pour ceux qui s'intéressent à la physique, c'est un mot normalement sur lequel on est déjà tombé. Donc le condensat de Bose-Einstein, en fait, c'est un groupe d'atomes qui sont tous dans le même état quantique.
Ah oui.
Donc il a quand même fallu attendre pour établir le premier condensat, 1995, pour expérimentalement arriver à réaliser
en créant,
ça.
Oui.
Donc voilà, il se passe ça, voilà, Einstein qui le propulse sur le devant de la scène internationale et de la recherche. Du coup, entre 1924 et 1926, Bose va voyager en Europe et là en fait, il va rencontrer Louis de Broglie, qui est quand même un des pères fondateurs de la mécanique quantique, qui travaille avec Marie Curie et donc avec Einstein. Il passe une année à Berlin à travailler avec Einstein. Et puis, en 1926, il décide de rentrer dans son pays. Et là, il devient professeur. Alors, normalement, il n'avait pas le droit d'être professeur parce qu'il n'a pas de doctorat. Il n'a pas fait de thèse. Il est vraiment maître assistant.
Ouais, mais quand Einstein, comme mentor.
Mais c'est exactement ça qui s'est passé en fait. Mais il a été recommandé par Einstein, donc ils ont dit bon d'accord, tu peux être professeur. Ouais, je trouvais ça intéressant. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un mot de la physique qu'on connaît, mais moi je savais même pas que l'origine c'était ça. C'est les bosons. Les bosons sont des particules. Enfin, c'est un type de particules, et en fait ils ont ce nom en hommage à Bose.
Ok.
Ah ouais.
Donc les, je vais la faire courte, mais les bosons, c'est des particules de spin entier, par opposition aux fermions qui ont des spins 1/2. Donc bon, voilà. Mais en fait, en gros, toute la matière autour de nous est constituée par des fermions. Donc ça, ça constitue la matière. Les bosons, elles, ça va être des particules qui sont plus responsables des interactions, qui véhiculent les forces, en fait.
Ah ouais.
Donc, par exemple, les photons. Qui véhicule les forces électromagnétiques, ou ce qu'on appelle aussi les gluons. Les gluons, en fait, c'est des particules qui sont responsables de l'interaction forte. C'est-à-dire, c'est grâce aux gluons que les quarks se tiennent entre eux et peuvent former
des
protons et des neutrons, qui eux-mêmes ont formé des atomes.
Ouais.
C'est aussi ce qu'on appelle le boson de Higgs, dont on a beaucoup parlé récemment, qui est plus ou moins responsable, en fait, de la masse de la matière. Donc on est quand même sur un truc de physique fondamentale bien 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 solide quoi. Et donc ça c'est Bose qui a découvert et prédit l'existence de ces particules
par les maths avant le avant l'observation quoi.
C'est ça. Oui, oui, c'est de la physique théorique.
Ouais.
C'est beau.
Mais comme Einstein hein, pareil. Ils sont quand même des mathématiciens assez avancés quoi.
Ouais, c'est clair.
Voilà un peu pour son parcours. Donc je trouvais ça intéressant. Je trouve que ça rappelle un petit peu là ta chronique une fois Axel où tu parlais de la façon dont la science fonctionne et toi tu parlais de Hubble en fait, comment il avait vraiment convaincu tout le monde de changer de paradigme en fait, au moment où il avait vraiment étendu l'échelle de l'univers en fait. Et là encore, c'est pareil. On a quelque part un inconnu, quelqu'un qui est même pas chercheur, mais qui fait ses petits calculs dans son coin et qui réussit à convaincre Einstein que c'est juste. Et derrière, ça marche en fait. Ses idées ont été très vite acceptées, accueillies
et encore utilisées aujourd'hui.
Puis ça ouvre la voie à plein de trucs.
Ça ouvre la voie à différentes choses. Alors justement, c'est ça dont. Alors il a fini sa vie. En plus, juste je mentionne. Donc ensuite, il est rentré, il est devenu professeur. Il a continué des recherches, donc évidemment en physique théorique, mais aussi en biochimie et aussi en littérature. Parce qu'en fait, il aimait, comme il est bengali, il favorisait aussi le bengali comme langue d'enseignement. Enfin, il avait tout un truc par rapport à sa langue natale, en fait. Il a lui-même fait des études approfondies en chimie, en géologie, en anthropologie. Donc, c'est vraiment une espèce de scientifique assez, assez complet et un esprit très curieux.
Oui, c'est ça. Oui.
Ouais. Alors le truc, c'est que donc ce condensat de Bose-Einstein, comme j'ai dit, on a réussi pour la première fois à en faire un en 1995. Alors clairement, il a fallu attendre en fait les lasers. C'est grâce aux lasers optiques qu'on peut refroidir la matière. C'est-à-dire en gros, on bombarde les atomes dans toutes les directions de l'espace en même temps pour les immobiliser.
Ah oui.
C'est un peu comme ça qu'on arrive à baisser vraiment les températures et à s'approcher du zéro absolu. C'est pas avec des glaçons quoi. Et on rappelle, le zéro absolu c'est -273 degrés Celsius. Donc et en fait, ce condensat de Bose-Einstein, en fait, c'est aussi la découverte du phénomène de ce qu'on appelle la superfluidité. Donc par exemple la superfluidité de l'hélium-4.
Ouais.
En fait, c'est décrit par une statistique de Bose-Einstein. Donc ça a plein d'applications en fait, enfin alors des applications, oui c'est sûr qu'on ne voit pas ça dans les voitures ou dans quoi que ce soit, mais dans les labos et dans la recherche, il y a énormément de choses autour de ça. Et en particulier, une des applications vraiment intéressantes du condensat de Bose-Einstein, donc c'est ce qu'on appelle un laser à atomes. Puisqu'en fait, dans un condensat, tous les atomes ont le même état quantique. Et c'est exactement ce qui se passe pour un laser. C'est-à-dire quand la lumière d'un laser, en fait, ce sont que des photons qui sont tous pareils. Et c'est ça qui fait, en fait, c'est une lumière cohérente. C'est-à-dire que et c'est ce qui fait la puissance du laser, en fait. Et aussi le fait qu'on ait un faisceau comme ça, qui ne diverge quasiment pas. Même si, bon, évidemment, au bout d'un moment, le faisceau, il s'élargit un peu. Mais c'est ça la clé théorique du laser. Et en fait, à partir de ces idées-là, du condensat de Bose-Einstein, on peut construire des lasers à atomes. Alors, pour l'instant, on en est au balbutiement de ça. Donc, en fait, là, actuellement, on en est au même niveau qu'on en était pour le laser optique en 1960.
Okay.
Donc, en fait, on n'a pas vraiment de vrai laser à atomes.
Ans.
Ouais, mais qui sait où ça peut mener.
Oui.
Et donc, c'est utiliser le peu qu'on a, ça permet de faire de l'holographie atomique. Donc, de créer des hologrammes, en fait, à très haute résolution, avec une résolution bien meilleure que celle des lasers optiques. qui sont utilisés pour l'holographie classique. Ouais. Et l'autre application qui, elle, serait vraiment intéressante le jour où ça marchera, c'est de faire de l'interférométrie atomique. Donc, et là, pour sonder la matière, en fait. Et vraiment, le sonder à une échelle, pour l'instant, on n'a pas accès. Donc, de vraiment venir tester la mécanique quantique en laboratoire de façon encore plus pointue.
Voilà. Sonder au plus profond de la matière, quoi.
Ouais, c'est ça. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire sur cet homme assez étonnant, hein, Satyendranath Bose,
C'est vrai qu'en Bose, on entend souvent ce nom qui revient.
Un boson, et puis Bose-Einstein. Alors, en plus, les condensats de Bose-Einstein, là, l'autre jour, j'étais tombé sur une émission, c'est Dalibar, là, qui est un physicien français, qui est un peu âgé maintenant, mais qui a fait pas mal de recherches dans les 70, 80, et qui a beaucoup travaillé sur ces condensats. Qui en a fait, etc. Et en fait, il parlait de justement ces phénomènes de superfluidité ou par exemple des vortex. On peut arriver à mettre en rotation un fluide, enfin un condensat, mais c'est compliqué parce qu'en fait, il est superfluide. Donc c'est-à-dire qu'il adhère pas aux parois. Donc tu peux pas faire tourner ta paroi. En fait, le truc il reste
sur
place.
Il bouge pas. Ah ouais, excellent.
Mais donc avec ce qu'il appelait des cuillères optiques. En gros, tu balances
des rayons,
tu commences à arriver à le faire tourner. Et en fait, tu vas commencer à avoir
l'apparition. Ça se passe au niveau atomique, quoi.
Tu commences à avoir des tourbillons, mais qui ne sont pas du tout comme les tourbillons d'un fluide classique. Où là, en fait, ça tourne plus vite. Alors, qu'est-ce qu'il racontait ? Oui, dans un tourbillon, ça tourne lentement au bord
et vite
au centre. Et là, c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que le centre est quasiment immobile, alors qu'autour, ça tourne très très vite. Il n'y a que des trucs super bizarres, en fait, qui viennent toucher à la mécanique quantique. Donc, en fait, on sort des logiques macroscopiques. Mais tout ça, c'est réel, ça s'observe. C'est des états de la matière qui sont très particuliers, mais qui sont réels. Et voilà. M'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire une petite pause musicale. Cette semaine, c'est un morceau de Black Sabbath qui s'appelle « Solitude ». Et bon retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors on va continuer le déroulé de ce 88e épisode avec toi Axel, la rubrique qui tombe à pic. Et tu vas nous faire la deuxième partie de ta chronique sur les météorites.
Tout à fait, la chronique sur les météorites que j'avais commencé il y a deux émissions je crois maintenant, donc la 86e émission, si vous voulez aller écouter la première partie sur le site de RDWA, n'hésitez pas. Et la dernière fois, donc, je vous avais parlé des généralités, un peu de vocabulaire, un peu d'histoire, de comment on a compris ce que c'était les météorites, comment on les a représentées, des choses comme ça. Mais cette fois, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Alors, je pensais parler vraiment de la composition des météorites, mais en fait, je ne vais pas me prétendre géologue, et c'est tellement compliqué que j'ai abandonné. Alors, je vais quand même en toucher deux mots, mais je vais surtout vous parler... de vous relater des témoignages historiques de météorites. Bon, alors un petit mot quand même sur leur composition et leur classification. Pendant longtemps, on les classait simplement en trois catégories. Les pierreuses, les fers et les mixtes, qui sont des deux, à la fois pierre et métal. Sachant que les pierreuses, c'est 93% des chutes de météorites et les ferreuses, c'est 6%. Aujourd'hui, on a gardé deux grandes catégories qui sont plutôt pas dues vraiment à leur composition, mais à la façon dont elles sont composées. Il y a les non-différenciées, ou les primitives aussi, on appelle ça, qui ont une composition quasi similaire au disque protoplanétaire qui formait le système solaire avant que ça devienne une planète, avant que ça devienne les 8 planètes. Et ça, ces météorites non-différenciées viennent d'astéroïdes assez petits. Et à l'inverse, les météorites différenciées sont elles issues d'un corps suffisamment gros pour différencier la matière par l'effet de la gravité. Les matériaux plus lourds tombent vers le centre, donc plutôt le métal, et les matériaux plus légers restent en surface. Donc ça, voilà, ça vient de choses un peu plus grosses, d'un corps par an un peu plus grand. Là-dessus, on décompose ensuite en quatre types. La plupart, c'est de l'ordre de 90% quasiment des météorites, sont des chondrites. Chondrite, ça vient du mot chondre. En grec ancien, ça veut dire un petit grain. Parce qu'on voit, en fait, à l'intérieur, il y a une matrice. Alors, j'ai pas bien compris de quoi c'était fait, le gros de l'astéroïde. Mais on a des roches qui vont prendre des formes rondes, des petits grains, des petites sphères millimétriques. Les chondres. Donc ça, c'est les chondrites. Ensuite, 8% des autres, du reste, sont des achondrites. Donc là, c'est essentiellement de la pierre aussi, mais c'est plus diffus. Il n'y a pas ce phénomène de petits grains, de petites sphères. Il y a assez peu de fer dedans parce que justement, ça vient d'un corps par an différencié. Puis on a 5% de météorites qui sont ferreuses. Alors, ça peut être du fer, ça peut être du nickel aussi, mais on les appelle quand même ferreuses, métalliques en tout cas. Et les mixtes, ça représente le dernier pourcentage. On les appelle aussi les sidérolites, donc littéralement sidère, le fer, et lite, la roche. Dans ces météorites-là, c'est à teneur égale pierre et fer.
Waouh!
Voilà. Et ça, c'est que le début. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur la composition. En tout cas, tout ça, il en ressort une chose, c'est que, à l'exception des achondrites, les météorites sont magnétiques. Ils ont toujours un petit peu de fer et de nickel. Et donc, c'est une des façons de les trouver.
Le nickel est magnétique aussi?
C'est une autre question, le nickel peut-être pas, le fer, oui forcément.
Mais il me semble que c'est comme ça qu'il y a les premières boussoles en fait.
Ouais,
ils avaient trouvé des pierres un peu magiques quoi, quelque part.
C'est ça.
Et pour la navigation.
Ouais.
Les Vikings en particulier, je crois, utilisaient des météorites pour faire des boussoles.
Mmh. Alors avant d'aller plus loin et de vous parler de quelques météorites historiques, remarquables, Je touche un tout petit mot sur le nom, comment on les nomme. C'est très simple. C'est la Meteoritical Society qui officialise le nom. Et en général, la météorite prend le nom du lieu où on l'a trouvé, souvent du village qui est à côté, de la ville qui est à côté, parfois de la région. Enfin voilà, c'est un côté géographique. Plus rarement, mais ça arrive, elles peuvent prendre le nom de l'endroit où elles ont été achetées. Si. Quand un chasseur de météorites les trouve, puis le vent, ça peut prendre le nom de là où ça a été acheté. Et si plusieurs sont trouvées au même endroit, parce que ça arrive qu'elles se fragmentent et qu'il y en ait plusieurs dans le même secteur, et bien là, simplement, elles ont le même nom suivi d'un chiffre. Alors, quelques météorites remarquables. Si vous vous souvenez, dans la première partie de ma chronique, je vous parlais d'un des plus gros marchés de météorites au monde qui se tient chaque année en France, à Ensisheim, en Alsace. Mais je ne vous avais pas dit pourquoi à Ensisheim, petite bourgade de 7000 habitants, plutôt qu'ailleurs. Eh bien, parce qu'en 1492, une météorite de 127 kilos a choisi de s'y échouer. Et elle est toujours exposée là-bas. Elle est gardée par la confrérie Saint-Georges des gardiens de la météorite d'Ensisheim.
Ah oui.
Et voilà, et donc c'est pour ça qu'on a choisi cet endroit, que les passionnés de météorites ont choisi cet endroit pour se réunir chaque année et parler de météorites, se les montrer, se les échanger, des choses comme ça. Pour rester en France, je vais vous parler de la plus grosse d'entre toutes, c'est la météorite de Caille, qui fait elle pas moins de 626 kilos et qui est plutôt féreuse. Et je rappelle aussi que ce qui arrive au sol, c'est entre 1% et 1 pour 1000 de ce qui rentre dans l'atmosphère. La grosse partie est dégagée par la friction avec l'atmosphère. Et donc, c'est qu'une petite partie qui atteint le sol. Donc, 626 kilos qui atteint le sol, ça veut dire que c'était quand même un bel objet.
Ça fait un cratère, non ?
C'est possible. Celle-là, elle a été découverte au XVIIe siècle.
Ah oui.
C'est sûr que ça a fait un gros cratère.
Ouais, je pense. Ouais.
Vous allez voir, après, il y en a une qui est un peu spéciale. Mais... Alors, celle-là, d'après la rumeur, elle a été découverte par un berger dans les montagnes à quelques kilomètres du village de Caille. Puis elle a été traînée par un attelage de bœufs pour la ramener jusqu'au village, récupérée par le maréchal ferrant du coin,
pour en faire
qui en a tiré deux fers à cheval, enfin deux fers à mulet précisément, puis qui finalement a trouvé que le métal était pas ouf, donc elle a fini par servir de banc public devant l'église du village. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui s'y connaisse un peu plus, qui se dit « Mais attendez, c'est une météorite que vous avez là ouais, !» Maintenant elle est au musée d'histoire naturelle à Paris. On a aussi la météorite Orgueil, qui est le nom du village près de Montauban, c'est dans le Tarn-et-Garonne, qui est tombée là-bas le 14 mai 1864. Et elle n'est pas si énorme, bon, quand même elle fait 14 kilos, mais c'est une espèce très rare. Alors, comme je vous disais, on ne va pas trop rentrer dans les détails de la composition, mais elle contient entre autres du xénon et des poussières de diamants. Et c'est surtout avec elle que pour la première fois, on découvre des acides aminés, donc extraterrestres, et qui ont mené à la création de la théorie de la panspermie cosmique, l'idée que la vie sur Terre a été amenée, enfin les briques du vivant sur Terre a été amenée par des chutes de matière extraterrestre.
Grâce à Orgueil.
C'est grâce à Orgueil, c'est ça. Sa chute a été observée par des milliers de personnes dans le sud de la France et dans le nord de l'Espagne. On a aussi la météorite de Ornans, ou Ornans, je ne sais pas comment on prononce, si quelqu'un, vous n'êtes pas de Franche-Comté. En tout cas, elle est de là-bas. Le village de Ornans, elle fait 6 kilos. Elle est tombée le 11 juillet 1868. Et elle a une composition assez spécifique qui est même devenue une catégorie. Maintenant, il y a des météorites dites CO pour chondrite de Ornans. Et ce soir-là, donc du 11 juillet 1868, vers 19h, les habitants autour témoignent avoir entendu quatre grosses détonations successives, semblables à des coups de canon. Certains ont d'ailleurs cru à une attaque des Prussiens sur le fort de Salins-les-Bains, tout proche. Puis une dizaine de petites détonations, et finalement, une dernière, de nouveau bien fort, suivie d'un long sifflement. Un témoin qui dit « comme un grand nombre de locomotives qui siffleraient toutes en même temps ». 10 minutes plus tard, après ce sifflement, deux ouvriers agricoles, Roussel et Coulet, qui étaient en train de faucher du foin, se retrouve subitement projeté au sol. À 75 mètres d'eux, la météorite de 6 kilos a creusé un cratère de 28 cm de profondeur et 21 cm de diamètre. Mais l'impact a été suffisant pour coucher ces deux fermiers.
Elle a dû tomber vraiment presque droite, en fait.
Ouais, ouais. Et elle est tombée assez fort pour ce... Non, je m'attendais à quelque chose de plus grand. Ouais. 6 kilos de météorite qui, en touchant le sol, s'est brisée en deux. Et donc on a deux morceaux... de parts égales, de masse égale, qu'on peut coller comme ça, dire « Ah, ça fait une boule voilà. ». En Normandie, là on est en 1803, on remonte un peu dans le temps, en Normandie, la météorite de l'Aigle, c'est le nom d'un village dans l'Orne, et le mardi 6 floréal, vers 13h, quelques 3000 fragments d'une météorite s'écrasent tout autour de la commune de l'Aigle. On a le témoignage d'un citoyen nommé Marais, que je vais citer. Mardi dernier, entre 1 et 2 heures de l'après-midi, nous fûmes surpris par un roulement semblable au tonnerre. Nous sortîmes et fûmes surpris de voir l'atmosphère assez nette, à quelques petits nuages près. Mais la surprise fut bien autre chose, lorsqu'on apprit qu'il était tombé de ce nuage des pierres très grosses et en grande quantité, parmi lesquelles il y en avait de 10, 11 et jusqu'à 17 livres. Chacun dans le pays est curieux d'en posséder une ou un morceau, comme étant un objet de curiosité. Les plus grosses ont été lancées si violemment qu'elles sont entrées dans la terre, au moins à un pied de profondeur. Elles sont noires extérieurement et grisâtres intérieurement. Il semble qu'il y ait dedans une espèce de métal. Alors la plus grosse des météorites qui est tombée sur le territoire français, même si en fait ce terme n'avait aucun sens à l'époque, puisque là on remonte à 214 millions d'années en arrière, elle a laissé un cratère de 21 km de diamètre entre Rochechouart et Chassenon, respectivement en Haute-Vienne et en Charente. Alors le cratère est très difficilement identifiable aujourd'hui, dû à l'érosion, à la mécanique, à la tectonique des plaques, mais on peut l'imaginer notamment avec toutes les roches fracturées par l'impact qu'on a retrouvées tout autour. Mais on n'a jamais retrouvé la météorite elle-même, qui elle semble s'être entièrement désintégrée au contact du sol.
Ah ouais, c'est possible ça que
ouais,
poussière,
devient poussière. Ouais, ah ouais. Ça. Mais par contre, les cailloux autour qui étaient déjà là ont été cassés en deux ou
déformés, ouais. Projetés.
Et ça, on le voit encore aujourd'hui. Et la plus grosse au monde, là, on sort de la France. La plus grosse au monde, vous allez me demander, eh bien, elle a été découverte en 1920 en Namibie. Et elle constitue aussi le plus gros bloc de fer de la planète, avec pas moins de 60 tonnes. Je rappelle, c'est peut-être un millième de l'objet qui est rentré dans l'atmosphère. 60 tonnes qui arrivent au sol. Et elle mesure 3 mètres de long et de large sur un petit mètre de haut. C'est une sorte de rectangle comme ça, de bloc. Mais assez plat, et on estime qu'elle est tombée il y a au moins 80 000 ans. Bizarrement, il n'y a aucun cratère qui y est associé, parce qu'elle a sûrement été trop ralentie par l'atmosphère. Alors, les scientifiques ont eu l'idée que ça serait dû à sa forme relativement plate, et qu'elle aurait réagi avec l'atmosphère comme un caillou qui ricoche sur l'eau, en fait. Et donc, suffisamment freinée, et elle arrive au sol pas si vite, et donc pas de cratère.
Bah ouais, c'est fou.
Et alors, je précise
pas de cratère visible 80 millions après, quoi.
Ouais. Elle pèse 60 tonnes aujourd'hui, mais elle en faisait sûrement un peu plus à l'origine, parce que depuis, il y a eu de l'érosion, mais aussi du vandalisme, qui l'a amputée d'une partie de sa masse. D'ailleurs, il y a un caillou de 120 et quelques kilos qui est exposé dans un musée londonien, je crois, en tout cas en Grande-Bretagne. Pendant longtemps, on a pensé que c'était une partie de cette même astéroïde, de cette même météorite, qui s'appelle, je ne l'ai pas dit, la météorite de Hoba. Et voilà, donc aujourd'hui, non, on s'est dit c'est peut-être pas la même, ou alors c'est un autre groupe, elle s'est peut-être fracturée, enfin bon. En tout cas, voilà, c'est la plus grosse au monde. Alors l'une des plus connues des météorites, connues par nos contemporains, et dont vous avez peut-être vu des vidéos carrément, c'est celle dite de Tcheliabinsk, dans l'Oural, tombée en 2013. On peut voir des vidéos de ce météore, de ce bolide, qui rentre dans l'atmosphère. Elle s'est pas mal fragmentée dans l'atmosphère, mais il y a quand même des fragments qui sont restés assez gros pour provoquer des nombreuses blessures dans la région, principalement dues à l'explosion des fenêtres. Ça fait une belle onde de choc. Que dire de plus ? Tout ça, ça mène à mon dernier point, celui des risques. C'est quoi en fait les risques réels ? Est-ce qu'on est menacé par tous ces objets qui rentrent dans l'atmosphère terrestre et qui parfois arrivent jusqu'au sol ? Bon, j'en ai déjà un peu parlé la dernière fois. On estime que la Terre balaye environ 100 tonnes de matière interplanétaire par jour. Le déplacement sur 24 heures de la Terre sur son orbite, elle va à la rencontre de matière interplanétaire. Et voilà, on estime environ 100 tonnes par jour. Alors, c'est une estimation, il y en a même certains qui n'hésitent pas à la revoir 10 fois à la hausse. C'est dû à environ 100 millions d'objets qui traversent l'atmosphère quotidiennement.
Tu veux dire que c'est 100 tonnes qui arrivent sur Terre
mais... Qui rentrent dans l'atmosphère.
Qui rentrent dans l'atmosphère,
ouais, c'est ça. Ah, oui. 100 millions d'objets. La grande majorité de tout ça, c'est des poussières de moins de 0,1 mg. On peut les comparer en substance à de la cendre de cigarette. Et finalement, sur les 100 tonnes par jour qui rentrent dans l'atmosphère, il n'en reste que 6 qui touchent le sol.
C'est déjà pas mal.
Oui. Concernant les objets de plus de 10 grammes, Il s'en écrase un tous les quarts d'heure en moyenne, à la surface. De plus d'un kilo, c'est dans les 3000 par an. Mais 75% d'entre eux disparaissent dans la nature, surtout en fait dans les océans, qui, je le rappelle, couvrent les deux tiers de la surface de notre planète. Et du tiers de surface émergée restant, les zones habitées, elles, n'en représentent que 3%. Donc avant qu'il y ait un caillou qui tombe dans une zone habitée, il faut de la chance. D'ailleurs, je l'ai pas noté là, mais je crois que c'est de toutes les météorites qu'on a, plus de 80% ça vient de l'Antarctique. Parce que c'est plus facile de les retrouver là-bas qu'ailleurs.
Parce que tu vois, si tu vois un caillou au milieu de la glace, c'est voilà, comme une météorite.
C'est ça. C'est ça. Et même, il y a un effet en fondant, ça les fait remonter un peu.
Ah ouais.
Alors voilà quelques chiffres, des petites moyennes empiriques que j'ai trouvées marrantes. Il faut suivre. Voilà ce qui atteint la surface. Toutes les 30 microsecondes, c'est un objet de 1 micromètre de diamètre. Toutes les 30 microsecondes, un objet d'un micromètre de diamètre qui touche le sol. Un de 1 mm toutes les 30 secondes. Un de 1 mètre tous les ans. Un de 50 mètres tous les siècles. Un objet de 100 mètres tous les 10 000 ans. Et de 1 km tous les millions d'années. On peut même aller jusqu'aux objets de 10 km qui, eux, touche la Terre qu'environ tous les 100 millions d'années.
Tu parles de 10 km au sol.
Oui, ça c'est ce qui arrive au sol. Ouais.
Ça c'est le genre de météorite qui aurait pu causer l'extinction des dinosaures.
Oui, ouais, à partir du kilomètre, ouais, c'est ça. D'ailleurs, les astronomes ont recensé 900 objets dits dangereux, dont le diamètre est compris justement entre 1 et 10 km, et qui se trouvent pour la plupart dans la ceinture d'astéroïdes principale, donc entre Mars et Jupiter. Il y en a 70 qui sont susceptibles de venir à notre rencontre dans le siècle. Mais aucun d'entre eux, de ces 70, ne dépasse le kilomètre de diamètre. Donc ça va. En 2036, on a l'astéroïde surnommé Apophis qui se rapprochera de nous, mais la probabilité d'impact avec la Terre est quasi nulle. On peut quand même imaginer que si ce caillou de 325 mètres de diamètre percute la Terre, ça libérerait une énergie équivalente à 10 000 mégatonnes de TNT, soit la somme de toutes les armes nucléaires actuelles.
Soit ça, soit on fait tout péter nous.
Donc voilà, le ciel est loin de nous tomber sur la tête, mais il y a quand même quelques cas individuels qui sont recensés. Je parle sur des individus directement. En Chine, en l'an 616, une dizaine de personnes périssent suite à un impact météoritique. En 1515, en Italie, plusieurs cailloux d'une cinquantaine de kilos auront raison d'un moine et de quelques autres animaux. En 1639, on retourne en Chine, une météorite s'écrase sur un marché. Et là, tue plusieurs dizaines de personnes et même détruit quelques maisons aux alentours. En France, c'est en 1790 qu'un fermier et plusieurs de ses vaches s'éteignent suite à un impact. C'est en Gascogne. Bon, je ne vais pas faire toute la liste, qui n'est pas si longue, mais vous avez l'idée. L'histoire écrite humaine relate finalement assez peu de cas, quelques 200 de morts dues à un impact direct d'un astéroïde. Vous pouvez donc dormir assez tranquille, mais quand même, pour reprendre le titre de ce film sorti en 2021 où joue DiCaprio, Look Up, regardez en l'air. Et vous avez peu de chances de voir le caillou qui vous terrassera, mais vous pouvez toujours être terrassé par le sublime spectacle que nous offre l'univers chaque soir.
Merci Axel.
Merci.
Ouais. Je me souviens, je crois que c'était au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris une fois, il y avait une exposition, ils avaient amené une voiture qui avait été impacté par une météorite.
Ah oui, pas mal.
Il avait explosé. Et quand même, la voiture n'était pas...
pas fière.
Enfin, il y avait tout l'arrière de la voiture qui était explosé. Quoi.
Ah oui, oui.
Donc c'est vrai que c'est très rare.
Oui.
Mais potentiellement, ça peut arriver.
Ça peut arriver.
Et c'est imprévisible.
Oui, pour la plupart.
Enfin, sauf si c'est vraiment très gros. Voilà. Parce que là, on le voit.
Si c'est
arriver.
Très gros, on peut le voir et on ne peut rien faire. Mais si c'est petit, on le voit pas. On pourrait peut-être faire quelque chose, mais on le voit pas.
On peut rien faire. Il y a quand même c'est quoi le projet? C'est DART là, non?
Ouais.
Le système
de percuter,
d'envoyer des missiles en fait pour fragmenter ou dévier les objets qui potentiellement seraient dangereux. Mais tout ça, effectivement, est sous surveillance.
Ouais.
Et ben merci beaucoup. On va vous laisser pour cette semaine en vous souhaitant de bonnes observations et à la prochaine fois.
Ciao.